Roberto écoutait le bruit de la mer se fracasser contre les falaises. Il faisait sombre. Juste cette étrange lucarne d'où l'on entendait les mouettes affolées. Et le bruit sourd des vagues, violents, réguliers, frappant la falaise, faisant trembler ses entrailles, cherchant à s'introduire par la moindre faille. Ici aussi. Il hésita à se servir un nouveau verre de calvados. Il avait un peu froid. Ils allaient venir. C'était certain maintenant. Il observa les quatre murs sales. Il pensa qu'il avait toujours su, dès le premier instant, que cette pièce était un tombeau. Un caveau, plutôt. Un tombeau pour plusieurs. Sur la plage de Velette, Roland Bergton délaissa à regret la contemplation du profil de la jeune femme.
« Le qui et le pourquoi ?» commença le professeur.
« Paloma, à votre avis, quel était le principal enjeu du commerce international en 1900 ?»
Paloma avait sorti son pendentif de sous son t-shirt et tourné le dodécaèdre de cristal entre ses doigts. Elle réfléchit.
« Le charbon ?»«
Non. »
« Le pétrole ?»«
Pas encore. »
« Le blé ?»«
Non plus. »
« Les armes ?»«
Non. »
« Je donne ma langue au chat. »
Pour une fois, vous êtes pardonné. Ça va sans doute vous étonner, ma belle, mais le principal enjeu commercial international au début du siècle était l'opium. Le commerce d'opium fournissait plus de 40% des ressources des colonies anglaises. C'était un commerce parfaitement légal qui fit la fortune du Royaume-Uni et de l'ensemble du Commonwealth. La France tenta elle aussi de concurrencer les Anglais grâce à ses comptoirs en Inde ou ses colonies en Indochine. Mais à un échelon bien inférieur. Au début du siècle, les ravages de l'opium commencèrent à être dénoncés. Mais les intérêts économiques étaient considérables, bien supérieurs aux enjeux sanitaires. Les négociations furent longues et ne pouvaient être qu'internationales.
Paloma s'était allongée sur les galets. La fatigue, autant physique que nerveuse, l'emportait sur l'inconfort de sa position. Bergton se sentit une nouvelle fois troublé par la jeune femme au corps alangui, à quelques centimètres de sa main.
« Pourtant, continua Bergton, dès 1903, la France commença à restreindre l'autorisation du commerce d'opium. Suite à divers scandales liés à des actes criminels commis sous l'emprise de l'opium, en 1908, le gouvernement français interdit purement et simplement par décret toute importation et vente d'opium. Dans le même temps, le commerce d'opium resta encore parfaitement légal en Angleterre. Il y sera autorisé jusqu'en 1916. L'Angleterre était de très loin le premier fournisseur mondial d'opium. Ceci explique cela.
« Je commence à comprendre, »
dit doucement Paloma. « Imaginez, de tous les temps, la côte d'Albâtre et ses caches secrètes fut une terre de contrebande entre la France et l'Angleterre. Mais pendant cette courte période de l'histoire économique mondiale, entre 1903 et 1916, la frontière entre la France et l'Angleterre prit une dimension économique tout autre. Pensez donc, l'opium légal circulant librement d'un côté de la Manche, arrivant par navires entiers, des navires qui passaient au large du Havre, de Fécamp, de Dieppe, que les pêcheurs cauchois croisaient quotidiennement. De l'autre côté de la Manche, en France, une interdiction formelle malgré une demande toujours considérable. Des centaines de milliers de Français habitués à consommer de l'opium, dépendant bien entendu pour la plupart de cette drogue, prêts à payer une fortune pour s'en procurer, notamment dans les populations les plus riches, notamment bien entendu dans les populations parisiennes, les mêmes souvent qui ont fait construire des villas sur le littoral normand. Paloma avait fermé les yeux et respiré doucement. Bergton se demanda un instant si la jeune femme ne s'était pas endormie. Il continua cependant.
Comment alors résister à la tentation? Si vous savez naviguer sur la Manche, si vous connaissez comme votre poche les ports secrets de la côte d'Albâtre que les douaniers ignorent, comment résister à une activité illégale, certes, mais qui comporte si peu de risques, et qui surtout permet d'accumuler en peu de temps une richesse considérable, incalculable, une incroyable opportunité historique?
Paloma, toujours allongée sur les galets, garda les yeux fermés et dit doucement:
Votre version est très convaincante, professeur. D'accord pour le pourquoi, professeur. Qu'en est-il du qui ?
Je n'en sais pas beaucoup plus que vous. Je suppose simplement qu'entre 1903 et 1916, une poignée de marins cauchois ont organisé le trafic et se sont sans doute formidablement enrichis. Si on veut aller plus loin, il faut interpréter les indices laissés par Maurice Leblanc. On peut penser qu'ils étaient 12 complices et que leur cache, itinéraire, réseau, se situait dans le triangle cauchois de Lupin. Le triangle parfait.
Entre 1903 et 1916, c'est pendant ces 14 ans que Maurice Leblanc a imaginé Arsène Lupin et a écrit la plupart de ses aventures normandes. Mais que savait-il ?
Je ne sais pas. Peut-être a-t-il découvert le trafic lors de ses multiples promenades cauchoises dans des lieux retirés ? Ou à l'occasion de ses enquêtes sur l'histoire locale, sur les manoirs, sur les hobereaux enrichis ? Ou dans sa lecture méticuleuse des faits divers et ses relations avec la police et la justice ? Maurice Leblanc n'a pas voulu, pas osé dénoncer ouvertement les trafiquants. Révéler ce trafic par un double sens dans ses romans était évidemment pour Maurice Leblanc une méthode beaucoup plus amusante et sécurisante. Même si à la fin de sa vie, il avait peur, je sais. Peur de tout. Peut-être réellement parce qu'il croyait Lupin vivant. Peut-être tout simplement à cause de cette histoire.
Un trafic. Un trafic d'opium entre l'Angleterre et la France. C'est ce que dissimulent les aventures de Lupin.
Ouais, c'est évident lorsqu'on le sait. Dans les premiers romans de Lupin, les traversées de la Manche sont très fréquentes, notamment à travers les allers et retours du personnage d'Herlock Holmes. D'ailleurs, pour Conan Doyle, Sherlock Holmes était dépendant de la drogue, mais curieusement, Maurice Leblanc n'en dit pas un mot.
Un silence assourdissant, comme on dit. Donc, l'aiguille de Maurice Leblanc, positionnée au centre exact du triangle parfait, le colombier, ce dodécaèdre, désignait les passages des contrebandiers, les passages identifiés par Leblanc.
Oui. Et on peut même penser que les parcours dans le pays de Caux, d'Isidore Beautrelet, d'Arsène et Joséphine, leurs itinéraires similaires, du littoral cauchois à la Seine, représentent les itinéraires habituels des trafiquants. Le déchargement de l'opium dans les Valeuses, leur transport dans le pays de Caux par Yvetot, Doudeville, Yerville, Lillebonne, leur chargement discret sur des péniches en Seine, à Tancarville, Quillebeuf, Côtebec, La Maillerée, Ménil-sous-Jumièges, Duclair, autant de lieux cités par Leblanc. Voilà, Paloma, vous savez tout ce que je sais. Qui et pourquoi ?